sort de la jungle pour chasser. Elle rencontre un lapin, elle le mange. Elle rencontre un petit cochon, elle le mange. Elle rencontre une vieille chèvre, elle la mange. Elle rencontre une grande vache, elle la mange. Les bras villageois ne sont pas contents. Ce sont des Indiens de l'Inde. Ils prennent leur fusil et ils partent à la recherche de la grande panthère noire en entonnant leur chant de guerre pour se donner du courage. Pam 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 bientôt, la piste de la panthère suivant les traces de ses grosses pattes noires sur le sable. Le vieux chef a épaulé son fusil. Pan! Pan! Il a tiré au hasard. Manqué la panthère noire. Mais où est-elle tôt? Le jeune gars du village se retourne au bruit et que voit-il juste derrière le vieux chef? Grande panthère noire qui renifle et qui fait miam miam en ouvrant une gueule grande comme ça. Alors, le plus brave des chasseurs se sauve à toutes jambes et les autres le suivent en tirant des coups de fusil à tort et à travers. Pam 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 pam. La grande panthère noire, qui n'aime pas beaucoup le bruit du fusil, se sauve aussi. Les braves villageois ne vont pas bien loin, car ils ont très envie de la belle fourrure noire, de la grande panthère noire. Ils font un feu et se reposent avant de partir. Et puis, la chasse continue. La grande panthère noire fait le tour d'un petit bois de figuiers banyans pour surprendre les braves chasseurs. Mais les braves chasseurs courent derrière elle. Les chasseurs sont d'un côté du bois, la grande panthère noire est de l'autre côté. Si bien qu'ils tournent autour du petit bois de figuier banyan, un jour, une nuit, une semaine, des mois. Tout de même, au bout d'un an, la grande panthère noire se dit « Il faut en punir. Je maigris 100 livres à force de tourner en rond sans rien manger. Si ça continue, les chasseurs auront ma peau sans tirer un coup de fusil. » Alors, au trot, la voici partie tout droit vers le nord. Le brave chasseur court toujours derrière elle en suivant les traces d'une grosse patte noire. La grande panthère noire franchit l'Himalaya, le Tibet, la Mongolie, la muraille de Chine et même la Sibérie. Et les braves chasseurs franchissent eux aussi l'Himalaya, le Tibet, la Mongolie, la muraille de Chine et même la Sibérie. Enfin, la grande panthère noire arrive sur une banquise. Elle rencontre un ours blanc, un phoque gris, un hareng. Les braves chasseurs la poursuivent. Mais voici que la neige se met à tomber à gros flocons. La grande panthère noire devient toute blanche. Et comme elle est toute blanche sur la neige blanche, les chasseurs ne peuvent plus la voir. Plus de panthère. Les pauvres chasseurs sont bien étonnés. Tête basse et très triste. ils rentrent chez eux. En arrivant, ils apprennent que la grande panthère noire est déjà revenue et qu'elle a mangé un lapin, un petit cochon, une vieille chèvre. Alors là, ça ne va plus du tout. Mais alors, plus du tout, du tout, du tout. Les villageois ne sont pas contents. Ils prennent leur fusil et ils partent à la recherche de la grande panthère noire en entonnant leur chant de guerre pour se donner du courage.
Pam 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 pam.
Voici maintenant l'oiseau de pluie raconté par Monique Vermont. Flammarion, 1971. L'oiseau de pluie perché sur le grand tamarier chantait de mélancolie. Pluie, 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 pluie. Banyoun, B-A-N-I-O-I-N, c'est un petit garçon noir, le regarda longuement. Il réfléchit. Puis il alla trouver sa grand-mère. Grand-mère, dit-il, si nous avions un oiseau de pluie à nous, crois-tu que nos champs seraient arrosés quand nous le voudrions? Sa grand-mère hocha la tête et répondit sans hésiter.
Bien sûr, car l'oiseau ne chanterait que pour nous. Les récoltes seraient abondantes. Il n'y aurait jamais de famine.
Faut te dire que dans ce pays-là, le Sahel, en Afrique, tant qu'il ne pleut pas assez, eh bien les gens n'ont rien à manger, ils meurent de faim. Mais Banyoun voulait en savoir davantage. Il alla trouver son père. Père, dit-il, si nous avions un oiseau de pluie dans notre maison, crois-tu que nos champs seraient arrosés quand nous le voudrions? Le père réfléchit quelques instants, puis répondit. Non, je ne le pense pas. Les vieux du village racontent beaucoup de légendes. Faut-il croire tout ce qu'ils disent? Mais Banyoun voulait en savoir davantage. Il alla trouver un grand sage. Grand sage, si nous avions un oiseau de pluie dans le village, crois-tu que les champs seraient mieux arrosés?
Oui, sans doute, dit le grand sage, car cet oiseau sait quand la pluie va tomber. Il sait aussi quand elle doit s'arrêter. L'eau ferait pousser les plantes, la rivière ne serait jamais à sec, il n'y aurait plus d'épidémie, de maladie où tout le monde est malade à la fois. Mais qui peut posséder un oiseau de pluie?
Banyoun en savait suffisamment cette fois. C'est bon, dit-il, j'irai chercher un oiseau de pluie. Et le lendemain, dès l'aube, il se mit en route dans la boue. Il marchait depuis quelques instants seulement, lorsqu'il entendit une voix moqueuse l'interpeller.
Où vas-tu, Banyoun? Où vas-tu, Banyoun?
Devant la tête, Banyoun perçut un perroquet à travers les branches d'un cédratier, aussi un arbre bien coupé, qui s'appelle des cédrats. Je vais à la recherche d'un oiseau de pluie, dit Banyoun.
Oh, dit le perroquet, je n'aime guère cet oiseau qui se mêle toujours de chasser le soleil. Alors si tu veux, je peux t'aider, je peux t'aider. Je sais très bien imiter son cri. Écoute, pluie, 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 pluie.
En route donc, dit Banyoun. Et il poursuivit son chemin en compagnie du perroquet. Quelques instants plus tard, ils rencontrèrent un singe.
Bonjour, Banyoun. Bonjour, perroquet, dit le singe. Où allez-vous ainsi dans la brousse?
Nous cherchons,
dit le perroquet. Nous cherchons un oiseau de pluie, dit Banyoun.
Vraiment? Alors je vais avec vous. Je peux vous être utile. Je sais fabriquer les pièges qui attrapent les oiseaux de pluie.
Tu ne les aimes pas?
Oh, ni plus ni moins que les autres. Mais s'il y a un bon tour à jouer, je suis toujours content,
dit le singe. En route, donc. Au bout de quelques heures, ils arrivèrent au pied d'un baobab, très gros arbre qui pousse en avant.
Arrêtons-nous ici, dit le singe.
Il fabriqua un piège, et le perroquet, caché dans les branches de l'arbre, se mit à chanter de gaieté.
pluie.
Il fallait attendre que l'oiseau de pluie se décida à faire. Il fut réveillé en sursaut par le perroquet qui caillait.
Ça y est, il est pris.
L'enfant trouva sur le piège l'oiseau qui se débattait. Il le mit dans son sac et reprit le chemin du village. Lorsqu'il fut arrivé, il remercia le perroquet, le singe et leur dit au revoir. Il construisit une belle cage à l'oiseau, il l'y enferma et tout le village vint l'admirer. Et lui demander d'appeler la pluie. Mais l'oiseau se contentait de pousser de temps à autre un petit cri plaintif.
Chip, chip.
Des jours et des nuits passèrent. L'oiseau ne chantait pas. Les gens du village ne venaient plus voir l'oiseau. Vanyoum attendait. Vanyoum espérait toujours. Semaines passèrent. Les champs du village et ceux d'alentour se desséchèrent au point que la terre se fendit et se craquela. L'oiseau ne chantait toujours pas. Plus personne ne venait voir Vanyoum et son oiseau. Alors Vanyoum se rendit chez le grand sage. Le grand sage attendait Vanyoum. Il le fit entrer dans sa cage. Il ressortit en fermant la porte derrière lui. Avant la tombée de la nuit, le grand sage délivra l'enfant et lui demanda
« Pourquoi es-tu en larmes, Vanyoum ?»«
C'est parce que j'avais peur là-dedans. »«
Pourquoi as-tu pleuré au lieu de chanter, Vanyoum ?»«
A-t-on envie de chanter quand on est enfermé ?»«
C'est bon, Vanyoum. Maintenant, rentre chez toi. » Et occupe-toi de ton oiseau.
Vanyoum rentra chez lui. Il prit la cage, la déposa devant la cage, ouvrit la porte et sortit délicatement l'oiseau en murmurant
« Oiseau, mon cher oiseau, va, va !»
L'oiseau tourna la tête, regarda l'enfant, secoua deux ou trois fois ses ailes, puis s'élança avec de joyeux Puis, d'un vol si rapide qu'il ne fut bientôt plus qu'un petit point bleu là-haut, très haut dans le ciel. Et sur le village de Vanyoum, une pluie chaude et bienfaisante se mit à tomber. Toujours un album du Père Castor, dans la collection Seconde Lecture, il s'agit de Vernick. V-E-R-N-I-Q-E, raconté par J.M. Gilche, G-I-I-L-C-H-E-R, Flammarion, 1961. Jadis vivait dans le village de Tourneville un seigneur avare et cruel surnommé Malengroin, M-A-L-E-N-G-R-O-I-N, Tourneville, T-U-R-N-E-V-I-R-E. Il tracassait les pauvres gens de toutes les façons. Il leur interdisait même de ramasser du bois mort dans la forêt. Il descendait de son château suivi de son intendant, un grand diable encore plus méchant que son maître. Le village se vidait devant eux. Les enfants se cachaient sous les lits, les paysans barricadaient leurs maisons, prêts à gagner les champs par la porte derrière. Les chiens se sauvaient, les chats grimpaient sur les toits. Seul Vernick ne tremblait pas. C'était l'homme le plus pauvre du pays. Une chaumière, une vache maigre composaient toute sa fortune. Mais il était né sous une bonne étoile. Courageux au travail, malin comme un renard et joyeux comme un merle, il trouvait le moyen de faire vivre une femme et trois enfants là où un autre fut mort de faim. Souvent, à la nuit tombée, il rapportait des fagots de la forêt et sa cheminée fumait, malgré la défense du seigneur. Un jour, il avait allumé un grand feu que la soupe commençait à chanter dans l'âtre. Marion, sa femme, qui surveillait le chemin du château, cria « Voilà le seigneur! Il vient chez nous, prenez garde !» Heureusement, chacun savait qu'il avait à prendre. Sylvain, l'aîné des enfants, décrocha la marmite et la porta au milieu de la pièce. Jeannette, la seconde, jeta de l'eau sur le feu et Bernicou, le plus petit, armé d'une pelle plus grande que lui, recouvrit les tisons de cendres froides. Quant à Bernicou, il décrocha son grand fouet et se mit à fouetter le chaudron à tour de bras. Clac, clac, clac. Alangrouin poussa la porte, renifla l'odeur de la soupe au chou, alla droit à la cheminée, toucha la cendre et revint à la marque. Il souleva le couvercle et, stupéfait devant cette soupe qui bouillait sans feu, s'écria
« Comment fais-tu cela, drôle ?»«
Comme ceci !» répondit l'autre en faisant claquer son fouet de plus belle. « Clac, clac !»« C'est plus long, mais ça chauffe mieux que le feu quand on sait s'y prendre. »«
Que me chantes-tu là, grogna, malangrouin ?»
Sans ajouter un seul mot, il sortit, sauta sur son cheval, galopa jusqu'au château et courut aux cuisines.
Éteignez ce feu, misérable, et ne touchez plus à mon bois. Décrochez les chaudrons, fouettez-les jusqu'à ce que la soupe bouille et fume.
Cuisiniers et maritons se mirent en ligne, levèrent leurs fouets et vlan et claquent sur les chaudrons. Malangrouin allait de l'un à l'autre en criant
plus fort, fainéant, plus fort.
Et les fouets sifflaient. Et claquait, clac! Les marmitons fouettèrent les marmites 2 heures durant, mais la soupe resta froide. Malangrouin, lui, étouffait de fureur. Il monta tout en haut des remparts pour reprendre souffle au grand air.
Cette canaille s'est moquée de vous, lui glissa l'intendant à l'oreille.
Or, au même instant, la vache de Bernicou qui s'était échappée de son flot, longeait les fossés du château, et comme l'herbe y était fine et tendre, elle ne put s'empêcher d'y glisser.
Mais la vache de Bernicou,
cria l'intendant,
la reconnaît à sa corne cassée.
Mon herbe, hurla Malangrouin qui commanda au guetteur de tirer sur la vache.
Les archers pendèrent leur arc, les flèches sifflèrent. Et la malheureuse bête s'écroula morte.
On l'écorche, nous aurons de la viande pour la semaine. Quant à la peau, qu'on la porte à Bernicou de ma part.
Pauvre Bernicou, pauvre Marion, pauvre Bernicou. C'est lui qui pleurait le plus. Il avait si souvent mené sa vache le long des routes.
Allons, dit le père, ne nous désolons point. Demain, j'irai vendre cette peau à la ville. C'est ben le diable si le tanneur qui fait du cuir avec ne m'en donne pas quelques pièces.
Levé avant le jour, il embrassa sa femme et ses enfants et, chargeant la peau sur son dos, partit pour la ville. Il marchait à travers bois depuis un bon moment quand le bruit d'une dispute le fut surpris. Il avança à pas de loup, se cachant derrière un arbre, dans une clairière. Une douzaine d'hommes de mauvaise mine discutaient autour d'un tas de pièces d'or. C'étaient des brigands qui faisaient leur compte à la lueur d'une torche.
Belle occasion de me servir de la peau de ma vache, se dit Bernie.
Il la déroula, la jeta sur ses épaules, ramena les cornes sur son front, se barbouilla le visage de terre et fonça sur les voleurs en hurlant.
C'est le diable ! C'est le diable !
Crièrent les voleurs épouvantés. Et ils s'enfuirent tous aussi vite et aussi loin que leurs jambes purent les porter. Bernicou resta seul en face du trésor. Et quel trésor ! Un monceau de pièces d'or et d'argent. Des pistoles, des écus, des doublons et des quadruples d'Espagne. Il n'y en avait pas tant peut-être dans tous les coffres du château. Bernicou ne perdit pas de temps à compter sa fortune. Il remplit ses poches, courut chez lui, conta en deux mots son aventure et commanda aussitôt.
Sylvain, va chercher un grand sac dans l'armille. Toi, la Marion, attrape ta vieille brouette. Prends la charrette. Jeanne, tu m'aideras dans les côtes. Bernicou, tu garderas la maison, mais nous ne t'aiderons guère.
Une heure plus tard, le trésor était cachés sous la paille de leur grenier. Les voisins ne s'étaient aperçus de rien. Alors, une nouvelle vie commença pour la famille Thermite. Ce fut d'abord une vache grasse qui prit la place de la vache mère. Un cochon suivit, puis des poules, puis des lapins. Le père allait encore travailler de droite et de gauche pour ne pas trop faire jaser. Mais il rentrait chez lui bonne heure, et jusqu'au soir, ce n'était que partie de cache-cache et de Colin Maillard, rire, danse, chansons et jeux de toutes sortes. Quand le seigneur apprit la joyeuse vie qu'on menait chez Bernic, il le fit appeler au château.
« Tu es donc devenu bien riche, coquin, »
dit le seigneur.
« Que c'est tous les jours fête chez toi ?»«
Il est vrai que la peau de ma vache m'a rapporté gros. »«
Qu'est-ce que tu me racontes là ? Parle-t-il la vérité ?»
Malandroin, le sot n'en croyait pas ses oreilles.
« Et moi qui engraisse ici tout un troupeau, » pensa-t-il. Ces bêtes ne rapportent pas le quart de ce qu'on dépense pour elles. Il est temps de les faire abattre.
Le lendemain au matin, les pots étaient entassés dans un tombereau de grosses charrettes.
Portez-les au marché, dit Malandroin. Il m'en faut 100 pièces d'écu pour chaque pot.
Ils allaient partir pour la ville, la chanson au lèvre. Ils revinrent le soir, la tête basse. Les acheteurs s'étaient moqués d'eux. Aucun n'avait voulu de leur chargement à ce prix. Malandroin faillit s'étrangler de fureur.
Deux hommes chez Bernic tout de suite, hurla-t-il. On le fourre dans un sac et qu'on le jette dans la rivière.
Deux gardes coururent chez Bernic, le ficelèrent dans un sac, le suspendirent à une perche et l'emportèrent. Mais la route était longue et la soirée chaude. Le bâton sciait l'épaule des porteurs, et là, ils avaient grand soif. Ils passèrent devant une auberge. « Et si nous allions boire un verre de cidre ?» dit l'un.
« Ah, c'est pas de refus, » dit l'autre. « Laissons là notre bonhomme. Il est enfermé dans le sac, il ne risque pas de se sauver. »
Bernic resta seul, empaqueté au bord de la route. Il essaya bien de rompre ses liens et de déchirer la toile du sac, mais il n'y réussit pas. Heureusement, une charrette approchait. Déjà, on entendait la voix nasillarde du conducteur attrapant ses chevaux. Bernic reconnut la voix de l'intendant.
Voilà l'homme qu'il me faut, pensa-t-il.
Puis il se mit à gémir à haute voix.
Oh là là, comment faire ? Oh, quel malheur de ne pas pouvoir épouser une princesse.
Qui est là ?
Demanda l'intendant. Surpris d'entendre parler un sac.
C'est moi, le Bernic. Le roi me fait enlever et conduire à la cour. Oh là là, il veut me donner sa fille en mariage et je suis déjà marié. Oh là là, comment faire? Comment est-ce que je vais t'y faire?
Peste, le roi aurait un pauvre gendre, grogna l'intendant. Mais moi, je ne suis pas marié. Et puis, je suis riche, moi.
Oh ben dans ce cas, messire, prenez ma place et laissez-vous conduire. L'intendant dénoua les liens, délivra Bernic et, tout joyeux, se fourra dans le sac à sa place.
Enferme-moi bien solidement, surtout.
Oh, soyez tranquille, répondit Bernic en serrant la corde.
Mais n'ouvrez pas la bouche pendant le voyage. Votre voix pourrait vous faire reconnaître.
Pas si bête. Et toi, mène tout de suite ce chargement de farine au château.
Bernic sauta sur le siège et fouetta les chevaux. Quand les archers sortirent du cabaret, ils reprirent leur charge et allèrent la jeter à l'eau sans plus de manière. Pendant ce temps-là, Bernic arrivait au bout et sur la place du marché rencontrait le sire Malandroin campé sur son cheval.
Encore toi, canaille! Tu n'es donc pas au fond de l'eau?
J'en reviens à l'instant, monseigneur, pour vous servir. Et voilà le chargement de farine que vous envoie la reine des poissons.
La reine des poissons? En personne, monseigneur.
Elle voulait même me charger d'autres cadeaux pour vous.
Quel cadeau? Dis vite. Un grand cheval blanc harnaché d'or, trois lévriers d'Écosse, une épée ciselée. Ben, il fallait me les amener, imbécile. Ta sottise me fait perdre un trésor.
Il est peut-être encore temps de m'occuper de cette affaire. Réponds, comment va-t-on dans son royaume? Oh, ma foi! Le plus court chemin est celui que vos hommes m'ont fait prendre. C'est bon, va-t'en. Mais écoute bien, mon gaillard. Si tu manges, je te ferai pendre.
Aussitôt, Malengroin se fit conduire au petit pont. Là, Ilon donna ordre à ses valets de l'enfermer dans un sac et de le jeter dans la rivière, ce qu'ils firent avec empressement. Plouf ! Rencontra-t-il la reine des poissons ? Cette noble dame le retint-elle à sa cour ? Nul ne le sut, nul ne le revit. Bernic partagea son trésor avec les pauvres gens du village et Tournevire vécut enfin plus heureux. Fin de la deuxième piste de cette cassette unique d'album du Père Castor. Je te signale que j'ai enregistré d'autres albums du Père Castor sur d'autres cassettes que tu peux demander à la bibliothèque du GIA. Au revoir.